tout savoir de l'histoire de Kaamelott, de la légende du roi Arthur et de la quête du Graal. En présence d'Alexandre Astier, le créateur de la série télé à succès, qui est un véritable phénomène. Alexandre Astier, créateur et acteur, il interprète le roi Arthur de Bretagne. Europe 1 Découverte spéciale Kaamelott jusqu'à 11h avec vous, Michel Drucker.
Et oui, Alexandre Astier, il est comédien, il est dans LOL, le film à succès, Mademoiselle Azuelos, avec Sophie Marceau, il était dans le dernier Astérix, mais c'est l'auteur, le créateur d'une série qui est devenue culte, une série phénomène que je reçois. Bonjour Alexandre Astier.
Bonjour Michel.
Merci d'être monté à Paris parce que vous êtes lyonnais, vous habitez toujours Lyon.
Exactement, oui.
Alors c'est impressionnant ce qui s'est passé depuis 3 ou 4 ans dans votre vie. En 3 ou 4 ans, la série est devenue un phénomène sur M6. J'ai vu les chiffres qui sont impressionnants. C'est plus de 5,5 millions de téléspectateurs sur M6, entre 16, 17 et 20% de part de marché, ce qui est considérable, mais ce que je ne savais pas, vous le savez peut-être pas, enfin je vous le dis, ça peut vous servir pour renouveler votre contrat, que Kaamelott en 2007 est le programme qui rapporte le plus de revenus publicitaires à M6 et constitue le 6e programme le plus rentable des 4 principales chaînes françaises.
Ma foi, la poésie des chiffres, non, enfin, ça veut dire que ça marche donc.
Mais non, mais ça marche pas seulement ici, ça marche à l'étranger, maintenant au Québec aussi. Hein.
C'est vrai que les Québécois ont l'air d'apprécier, oui, c'est vrai.
Alors, avant de parler de la genèse de la série, comment Kaamelott est né, comment vous fabriquez cette série, parce que vous êtes vraiment un homme orchestre, puisque vous écrivez, vous composez la musique du générique, vous jouez, vous mettez en scène, vous distribuez vraiment la série, c'est vous qui choisissez les acteurs, c'est quelque chose d'impressionnant. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où vous venez.
D'où je viens? Je suis fils d'acteur, mon père et ma mère sont comédiens, je suis lyonnais. Et ma foi, j'ai toujours été élevé dans le goût des acteurs de théâtre. Ma mère a été mariée à Bruno Bréglin, qui est un metteur en scène de théâtre, qui a bossé avec Peter Brook, Coltès. Enfin, je viens pas forcément.
Vous êtes tombé dans la bassine très tôt.
Un petit peu, surtout non, pour le goût que j'ai des comédiens de théâtre qui sont quand même très majoritaires dans Kaamelott encore aujourd'hui. C'est des acteurs que je fais pas de casting en fait. J'ai du mal avec le casting, avec l'exercice du casting. Je vais les voir au théâtre et généralement je prends des gens qui m'ont impressionné sur scène souvent.
Oui, d'ailleurs, les plus célèbres de vos comédiens sont les guests, pas hein?
Voilà, c'est ça, les invités.
ceux qui sont passés dans la série, que ce soit François Rollin, Antoine Decaune, Laurent Doche, Bedos, Chabat, Semoun, Le Bolloc, Solo,
Clavier,
Léa.
Hein, ah bah Léa, bien sûr.
Léa Drucker, bien sûr. Mais alors, quand vous étiez gamin, vous écriviez déjà?
Non, c'est venu. Je crois que la première chose que j'ai écrite, ce sont des scénarios de jeux de rôle. D'ailleurs, c'est déjà médiéval pour le coup. Mais sinon, non, j'ai écrit la musique très tôt. En fait, c'est la musique. J'ai été au conservatoire à l'âge de 6 ans. Et j'en suis sorti à 20 et j'ai écrit de la musique à partir de 10 ans. Malheureusement, nuitamment. Je sais pas pourquoi. C'est l'écriture pour moi, c'est la nuit. Donc, ce qui a un petit peu modifié mes horaires de collège et de lycée plus tard.
Vous n'y êtes musicien, quoi.
Ah oui. Non, c'était vraiment prévu comme ça. C'était écrit, quoi.
Alors, la série s'inspire de la légende du roi Arthur, hein, ça se passe sur l'île de Bretagne, la chute de l'Empire romain, le roi Arthur qui règne en son royaume de Kaamelott, entouré de ses chevaliers de la table ronde qui sont un peu les pieds nickelés.
Hein. On peut dire, oui,
ils sont
très efficaces.
Ils sont très efficaces. Alors, Kaamelott, ça vient d'où? C'est une localité de la légende, ça. Hein.
Kaamelott, c'est la forteresse supposée du roi Arthur, une forteresse romaine que le roi Arthur avait montée dans le sud de l'Angleterre, qui a d'ailleurs un site aujourd'hui. On ne sait pas vraiment si ça a été là, mais il y a les fondations d'une forteresse romaine qui est supposément Kaamelott, le nom de sa forteresse. Oui.
Alors, revenons à votre enfance à Lyon. Qu'est-ce que vous alliez voir au cinéma, au théâtre? Je suppose que les Monty Python ne vous ont pas laissé insensible.
Non, les Monty Python, effectivement. Les Monty Python, c'est vrai que j'en ai bouffé, les Monty Python. Et puis, ma foi, c'est surtout avec mon père que j'allais au cinéma et c'était quand même très américain. J'ai vu les Star Wars qui m'ont beaucoup, voilà, les Star Wars, les Indiana Jones, tout ça. J'ai été vraiment nourri à ça par mon père. Vraiment. Et Audiard. Voilà, c'est deux écoles.
Mais dans les dialogues, je pense qu'Audiard est un petit peu présent d'ailleurs.
C'est sûr que c'est vraiment une école pour moi. Il y a des films que je connais par cœur, mais des fois on dit on connaît le film par cœur. Moi, je connais les films par cœur, vraiment au mot près. Avec mon père, on peut les réciter. Je pense que Le singe en hiver, je pense que Les vieux de la vieille et Le cave sur bif, on peut les aligner. Faire une heure et demie.
Et puis qui dit Audiard dit Blier, dit Lefebvre, Ventura.
Évidemment. Oui, oui.
La bande à l'autre quoi.
Tous ces types qui savent dire du Audiard. Tout le monde ne sait pas forcément dire du Audiard. Il y a même des très grands acteurs qui n'arrivent pas à le prononcer. Par exemple, De Funès, qui pour moi est une religion. Dans le Audiard, il est pas, c'est pas forcément le meilleur.
Non.
C'est Blier pour moi le meilleur. C'est celui qui a une élocution extrêmement rapide. Et puis je sais pas, une espèce de détachement de ce qu'il fait.
Bebel était pas maladroit dans le Audiard.
Exactement. Ouais, vraiment.
Il y a un phrasé Audiard. Hein.
Exactement.
Il y a un rythme Audiard.
Et Gabin, qui à mon avis a plutôt inspiré Audiard que l'inverse.
Alors, revenons à votre enfance à Lyon. Le théâtre, évidemment, vous avez baigné dedans, parce que vos parents sont vraiment tombés dedans très jeunes également. Mais ce qui me frappe, moi, je connaissais pas bien votre série, donc j'ai visionné des choses, parce que avec les horaires, je pouvais pas voir ça régulièrement. Et alors, j'ai remarqué que les décors, c'est-à-dire que non seulement le théâtre a fait partie de votre vie très tôt, mais le théâtre dans son ensemble, c'est-à-dire devant et derrière, hein, parce que vous apportez un soin particulier avec tous les détails à ce qu'il y a derrière aussi.
Oui, tout à fait. Et puis je crois que c'est marrant parce que je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps, mais je pense que j'écris en fait pour que ça fasse plaisir à l'acteur qui vient. C'est-à-dire qu'en fait tout est organisé pour le comédien. C'est pas l'image qui est au centre, c'est pas le son, c'est ni la technique ni la mise en scène vraiment. C'est à la limite je m'ennuierai jamais à mettre deux comédiens face à face et à les tourner en plan séquence pendant un quart d'heure. C'est pour eux quand même. C'est une cour de récréation pour acteurs.
Alors tous ces comédiens qui viennent du théâtre, vous les connaissiez avant d'écrire les premiers épisodes de Kaamelott, parce que j'ai l'impression que vous allez tout le temps au théâtre, parce que ces comédiens, vous les avez vus sur scène, hein, vous les connaissez tous.
J'y vais moins maintenant, j'ai un peu moins le temps, mais c'est vrai que...
Quand vous avez fait pour distribuer les rôles...
Ah oui, c'est beaucoup des gens avec qui j'avais été sur scène, moi, ou que j'avais vu sur scène avec ma mère, ou des gens comme par exemple Carlo Brand qui joue... ce sont des gens qui étaient... que j'ai vu ou avec qui j'ai joué. La 90% de la distribution de Kaamelott, c'est ça, oui.
Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez commencé? On me dit que vous avez commencé votre carrière, c'était à Lyon, je crois, par un court-métrage.
Oui.
D'une quinzaine de minutes.
Voilà, le Dies Irae, c'est un court-métrage qui se passe uniquement autour de la table ronde. Il y a juste il y a un problème à régler. Et ça met en scène, en fait, un roi Arthur qui est tout sauf... épique, tout sauf les gens qui sont autour, contrairement au grand film épique américain où tout le monde est d'accord, tout le monde est valeureux, tout le monde est combatif, bah eux sont un petit peu en pénurie de courage et d'énergie.
Je remarque d'ailleurs qu'un de vos premiers prix, vous l'avez obtenu à Montréal. C'était
exactement.
Le festival Juste pour rire.
Donc exactement.
C'est, oui, donc ça doit vous faire plaisir que des années après, les Québécois achètent maintenant toute la série.
Ça me fait très plaisir, d'autant que en fait, les premiers à qui j'avais essayé de vendre la série, c'est les Canadiens. Ils m'avaient un petit peu jeté ça au nez en disant au Canada, les chevaliers, c'est pas tellement notre truc, c'est plutôt sur le continent, sur le vôtre. Puis finalement, non, c'est pas vrai. Le public marche bien à ça, quoi.
Alors là, vous commencez à écrire, à tourner les premiers pilotes, hein, d'une série qui était à format court. C'était 5-6 minutes. Maintenant, c'est 3,5, c'est ça?
Bah oui, c'est-à-dire que moi, j'avais copié. Je crois que j'avais copié le format d'un gars, une fille ou quelque chose comme ça, parce que je connaissais pas bien. Donc j'avais pris quelque chose comme 4-5 minutes. Et finalement, le format de caméra café que j'ai remplacé, c'était 3,30. Donc il m'a fallu raccourcir.
Et pour être complet avec la genèse de cette série. À l'époque, M6 diffuse Caméra Café, hein, qui est un carton,
oui.
Avec Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Et finalement, vous allez présenter vos pilotes à la société de Jean-Yves Robin et Cal qui produit Caméra Café.
Exactement, et c'est même les premiers à le recevoir en France, en tout cas, c'est eux qui reçoivent le DVD, la proposition, et en fait tout est allé extrêmement vite, c'est-à-dire que je crois qu'une semaine après que j'ai posté le DVD, j'étais déjà dans les bureaux en train de travailler au 100 premier épisode.
Voilà, et l'aventure commence, les bases de la série sont posées, M6 est conquise, et très vite elle vous commande une saison, livre 1 de 100 épisodes, d'une série donc comique médiévale, appelé Kaamelott, et l'aventure est partie. On va y revenir longuement après la pub.
Habillage sonore spécial Kaamelott ce matin.
Spécial Kaamelott.
Alexandre Astier, vous posez toutes les questions que vous voulez sur la série, vos questions à Alexandre aussi, au 01 42 32 15 15. Michel.
Alors j'ai entre les mains Kaamelott, le livre 1, texte intégral, épisode de 1 à 100, et pour la première fois le texte original plus 3 épisodes inédits, édition Télémaque. Alors ça, c'est le premier.
Voilà.
Il y a longtemps que vous vouliez éditer tout ça ?
Depuis le début.
Depuis le début.
Je sais pas pourquoi. Vous savez, les textes qu'on fournit aux acteurs sur un plateau de cinéma, ils sont quand même très vite bousillés. On les retrouve sous les tables de la cantine, tachés de gras. En fait, quand la scène est finie de tourner, les textes deviennent un paquet de feuillets volants absolument inutiles. J'ai toujours eu envie de compulser ça, de mettre ensemble un bouquin qui... Voilà.
Et c'est vous qui avez écrit tout ça seul ?
Celui-là, quasi, celui-là. Quasi. Les autres tout seuls et celui-là quasi.
Ouais, ouais. Vous avez écrit tout, vous avez mis en scène, vous avez joué, vous avez distribué, vous avez écrit la musique, vous avez fait les décors. Vous dormez quand ?
Ben, je sais pas. Du coup, je regarde le bouquin, je me dis je sais pas. J'ai dû dormir un peu, sinon je serais pas là, mais.
Alors, on va écouter un extrait, hein, alors qui va amuser beaucoup ceux qui connaissent la série et ceux qui ne la connaissent pas. Je suis sûr que ça va leur donner envie parce que maintenant il y a des phrases cultes. Hein. Là, on a choisi un extrait de La Botte Secrète.
C'est le plus culte, il me semble.
Alors, on résume. Qui est Caradoc ?
Caradoc, c'est Jean-Christophe Ambert, c'est le chevalier de Vannes. Et son copain Perceval de Galles, est joué par Franck Pithiot, et c'est, on pourrait dire, les deux plus imaginatifs de la série.
Oui. Alors lui, il comprend rien.
Hein,
et quand il y a un mot qu'il comprend pas, il veut pas passer pour un gland, alors on lui conseille de dire c'est pas faux.
Voilà. Parce que ça passe en toutes circonstances. On entend un mot compliqué, si on dit c'est pas faux, ça passe très bien. Mais même dans la vie, c'est pas que dans la série, dans la vie, essayez-le, ça passe très très bien.
Écoutez.
Eh ben allez, une journée de plus en moins. On va dormir, puis demain on recommence. Je peux vous dire que Tavernier, c'est peau de sinécure.
Ah, c'est pas faux.
J'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure.
Moi non plus. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète.
C'est pas faux ?
Ouais.
Faudra quand même qu'on se décide à mettre un poste de garde sur cette route, hein. Trois fois qu'on se fait surprendre comme des bleus par les vandales.
Le problème, c'est quand on met des hommes à un poste de garde. La première semaine, ils jouent aux cartes, ils font leur pirata. Mais après, avec la solitude, ils sont beurrés du soir au matin. On les retrouve affalés sur la table.
Mais ils se débrouillent. Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même. C'est ça, monter la garde, hein. Je suis désolé. On n'a jamais dit que c'était une sinécure.
C'est pas faux.
Alors les vandales arrivent, au poste de garde, ils sont surpris, ils n'ont même pas le temps de donner l'alerte.
La première semaine, ça va.
La première semaine, vous irez leur dire aux vandales qu'il faut pas qu'ils se pointent en deuxième semaine parce que nos gardes supportent pas la solitude.
Ben, je sais bien.
Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal ?
Ouais, c'est pas faux.
Et alors ?
C'est vrai qu'en ce moment, ça va pas fort. Heureusement que vous êtes là pour me réconforter.
C'est bien normal.
Non, quand même. Combien il y en a qui se débinent dès qu'il y a quelque chose qui cloche ?
Vous me dites ça va pas fort, il faut qu'on se voit. On se voit. Avec moi, vous savez, c'est carré.
Je sais pas ce qui m'arrive ces jours-ci. Je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression d'être insipide. Mais alors ?
Ouais, c'est pas faux.
Et travers de porc, c'est pas mauvais, mais ça vaut pas des côtelettes. Côtelettes, c'est plus savoureux.
Ouais, c'est pas faux.
Sans blague, vous savez pas ce que ça veut dire, savoureux ?
Bah, évidemment que si.
C'est côtelettes que vous comprenez pas ?
Alors, sinécure, côtelettes... Il y en a des mots qui...
C'est les mots que je connais pas moi-même, hein, j'ai mis... C'est la vie.
Alors, instruit de cette botte secrète, Perceval l'utilise à tort et à travers. Et c'est pas faux, c'est devenu maintenant un langage. Hein. Les gosses... Alors, je remarque qu'il n'y a pas seulement que les mômes, hein, qui aiment votre série, il y a également les parents.
Oui.
Et le c'est pas faux, on va l'entendre longtemps maintenant.
C'est
comme le hockey et les visiteurs.
Hein. Ah oui, il paraît que les gens l'utilisent.
Quand vous écoutez ça, c'est un petit extrait. Hein.
Ouais.
C'est le livre 1, ça.
Ouais, j'ai dû l'écrire en 2004, ça.
Oui. Et oui, depuis, il y a eu, on est à la quatrième, là, maintenant, quatrième saison.
Non, la sixième va sortir. Sixième. Et puis, elle a tellement changé de forme, maintenant, on est en format long, elle accepte un peu sa part dramatique, maintenant, aussi, la série. Donc, ça, c'était des choses très lancées, très courtes, assez punch, comme Caméra Café, comme le format le sous-entendait, en tout cas.
Alors, pour expliquer aux auditeurs comment ça fonctionne, tout ça, vous tournez un épisode de 3 minutes et demie, prend combien de temps?
En fait, on mélange tout, c'est-à-dire qu'on tourne, par exemple toutes les séquences de chambre le même jour, ouais. Toutes les séquences, voilà, et on tournait à l'époque plus de 9 minutes par jour, c'est-à-dire pratiquement 10, l'équivalent de 3 épisodes
par jour,
on était obligé, oui. C'était le prix à payer pour ne pas tourner comme Caméra Café avec une caméra fixe, un seul décor et une seule lumière. Nous, on avait des décors, on avait des extérieurs, on avait plusieurs lieux, on avait beaucoup de costumes, et le prix à payer pour ça, c'était de tourner beaucoup par jour.
Et vous tourniez où ?
On tournait à l'époque dans des studios à Arcueil et les extérieurs où on pouvait, dans les forêts avoisinantes, Après, on s'est un petit peu émancipé, on est allé tourner dans les studios de cinéma à Lyon, et puis la dernière saison, la 6, qui va sortir en avril.
Vous êtes à l'extérieur, dans des châteaux.
Mais là, on est allé à Cinecittà même, parce que ça se passe à Rome.
Ah ouais?
Ouais, on a tourné à Cinecittà. Ouais. On a un petit peu poussé les murs depuis le début.
Mais alors, comment vous faites? Parce que vous dirigez et vous mettez en scène et vous êtes Arthur, le roi Arthur.
Oui.
Donc vous n'arrêtez pas une seconde.
Oui, c'est une petite gymnastique. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, vous savez, quand vous êtes comédien, diriger des comédiens et pas jouer avec eux, c'est dur aussi de rester sur sa chaise, d'être dans le bain avec eux, dans l'arène, et puis en fait organiser ce qu'on va jouer ensemble, c'est plus humain, quoi.
Europe 1 01 42 32 15 15 pour toutes vos questions sur Kaamelott. Et moi, j'ai une question: si Michel Drucker jouait dans la série comme les guest stars là, qu'est-ce qu'il pourrait jouer, Alexandre Astier, dans Kaamelott?
Bah, je sais pas, pourquoi pas un barde avec, je sais pas, c'est celui qui rapporte la bonne nouvelle, c'est celui qui parle aux autres, je sais pas, enfin, si ça vous intéresse, hein, Michel.
Mais il faut voir ça, on va réfléchir.
Ok.
Il faut que j'en parle à mon agent. Est-ce que vous savez que votre série est maintenant vraiment très très suivie par les ados, mais pas seulement par les ados, mais que les enseignants maintenant utilisent votre série?
C'est terrible.
Vous allez voir, j'ai un professeur de français au collège Saint-Jude à Armentières, qui s'occupe des classes de 5e, 4e et 3e, hein, qui regarde attentivement avec ses élèves votre série, qui s'en sert. Elle s'appelle Marianne Morel. Bonjour Marianne.
Bonjour Michel, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors expliquez-moi, j'étais fasciné d'apprendre que la série Kaamelott, vous l'utilisez dans un but pédagogique avec des élèves de 5e, racontez-moi.
Eh bien, d'abord, je ne pense pas être la seule, puisque on parle de cette série dans la NRP, la nouvelle revue pédagogique. On a des outils dans textes et documents pour la classe, hein. Et je ne suis certainement pas la seule à utiliser Kaamelott. Alors, il se trouve que le Moyen-Âge est à l'étude, hein, en 5e, en français et en histoire. Mmh. Et donc, au Collège Saint-Jude, nous avons une séquence sur le récit de chevalerie. Et à travers des textes fondateurs, nous étudions le chevalier. Nous essayons de faire comprendre aux élèves leur réalité. Les élèves découvrent que ce sont des êtres absolument exceptionnels par leur beauté, leur courage.
Donc la série, alors, vous pouvez pas l'utiliser parce qu'il y a un problème de droit. Vous utilisez comment, les planches?
Voilà, ça c'est un problème, Alexandre Astier, je vous tends une perche.
Je vous écoute.
Nous ne pouvons pas, et c'est une grande frustration des élèves, hein, qui me demandent systématiquement: madame, vous pourriez nous montrer un épisode? Et je ne peux pas le faire pour des raisons de droit d'auteur. Et personnellement, moi, je suis plutôt frustrée, parce que ce que je leur passerais volontiers et qui rentrerait vraiment à merveille dans ma séance, c'est le documentaire extrêmement sérieux qui s'appelle « Aux sources de Kaamelott » et qui se trouve dans le bonus du livre 2 de la série, dans le DVD du livre 2, et qui est vraiment très très intéressant. Et au niveau pédagogique, vraiment, ce serait un merveilleux outil si on pouvait l'utiliser, mais comme nous respectons les droits d'auteur, nous ne le faisons pas. Voilà. Mais les élèves, beaucoup, ce genre de travaux, avec Kaamelott, nous étudions la parodie du roman de chevalerie, les procédés du comique, et nous voyons comment Alexandre Astier prend le pied de la perfection du chevalier, comment il apporte sa pierre angulaire à la légende arthurienne, et comment, sur le mode de l'humour, il va tourner en dérision la perfection des chevaliers.
Et oui, parce que c'est vrai que Perceval, il n'est pas tout à fait le même.
Ah ben non,
Perceval, dans la réalité, hein.
Dans la réalité, dans certaines versions, du moins, celui qui trouve le Graal, quoi. Mmh. Alors que dans Kaamelott, c'est vraiment l'anti-héros.
Écoutez, madame, j'espère une chose de tout cœur, c'est que mes anciens profs de français écoutent Europe 1 en ce moment. Ceux qui m'avaient catalogué dans la classe des cancres, vraiment. Là, j'espère qu'ils entendent, parce que je suis en train de me venger, là. C'est parfait.
Ah non, mais alors là, mais franchement, je ne crois pas être la seule, hein. Il existe un site de profs.
Non, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça.
Sur un site de profs de lettres, j'ai déjà trouvé d'autres enseignants qui travaillaient comme ça. Et alors, si ça ne vous est jamais arrivé de suivre ce genre de travaux en classe, je vous invite, mais alors, très cordialement, au Collège Saint-Jude, où, à Armentières, on vous montrerait comment les élèves réagissent vous seriez, à mon avis, non seulement intéressés, mais particulièrement touchés. Parce que ça les intéresse énormément.
Voilà.
Et la parodie, ça fait partie aussi des programmes officiels. Il y a quelques années, je faisais ça avec des planches de BD de Gottlieb. Kaamelott, c'est absolument génial pour travailler. Enfin,
Anne-Marie Morel, si vous avez encore un petit moment, j'aimerais bien vous retrouver juste après les infos de 10 heures.
Ça va être difficile parce
bon.
Que...
Ouais, ben, vous avez cours, d'accord. Bon, mais écoutez, je vous remercie. Hein.
En tout cas,
peut-être s'il a le temps, un jour, Alexandre ira vous voir.
Hein. Ah, mais j'aimerais beaucoup. Alexandre, vous avez mes coordonnées maintenant. N'hésitez surtout pas. Je peux peut-être vous dire que vraiment la sortie du livre aux éditions Télémaque, là, pour nous, enseignants, c'est une mine maintenant parce qu'on peut enfin avoir des supports
très bien.
Super. Utiliser. Et vous, Michel, si j'ai bien compris, je crois que vous venez à Lille demain.
Oui.
Ah ben alors, n'hésitez pas à passer à nos portes ouvertes.
Ah, je ne sais pas si j'aurai le temps ou venez nous dire un petit bonjour. En tout cas, je garde vos coordonnées. Hein.
Sinon, demain soir et après-demain matin, si vous avez le temps passé à Saint-Just d'Armentières, vous verrez d'autres travaux de ce type-là.
Écoutez, en tout cas, si je n'ai pas le temps cette fois-ci, je reviendrai parce qu'on adore aller dans le Nord. Demain, on sera au Furet du Nord. Hein,
c'est ça. C'est ça, la librairie sur la Grand Place.
Okay, au revoir, Marianne.
Au revoir,
Alexandre.
Europe 1 découverte spéciale Kaamelott jusqu'à 11h avec Alexandre Astier, auteur de cette série qui cartonne sur M6. Et alors que les éditions Télémaque publient le texte original et intégral des épisodes 1 à 100, c'est-à-dire la première saison, le livre 1, avec en cadeau 3 épisodes inédits. Et puis autre chose à signaler, Michel, la nuit, Kaamelott au Grand Rex, le mercredi 25 mars, en ouverture du 3e Festival d'Humour de Paris. Paris fait sa comédie. Vous pourrez découvrir en exclusivité les premiers épisodes du livre 6, 5 heures de l'ultime saison de Kaamelott sur grand écran et avant la diffusion à la télé sur M6.
Alors Alexandre Astier, bon, le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde, c'est de la mythologie, hein. Il y a pas une vraie vérité historique.
Non. Hein. Heureusement, parce qu'on serait mal. non, il y a pas de vérité.
Alors, la littérature médiévale est une chose, mais c'est pas du tout ce que vous traitez. Hein.
Non, parce que justement, ce qui m'intéresse le plus...
Vous placez Kaamelott à la fin de l'Empire romain?
Ça, c'est plutôt historique. Arthur historique a existé, il serait plutôt placé à la fin de l'Antiquité, effectivement. Ça a probablement été un chef élevé par les Romains, comme c'était beaucoup le cas. Les Romains mettaient beaucoup de chefs locaux en place dans leur colonie. Donc, ce serait la version la plus plausible d'un Arthur archéologique, on va dire.
Oui, Arthur est un personnage qui n'a pas d'époque.
Non, il a une époque supposée historique, mais qui on ne sait pratiquement rien de lui. Par contre, il a plusieurs époques littéraires. Il a au 12e, au 13e.
Est-ce que vous dites que le film Star Wars pourrait être vu comme une transposition du mythe arthurien?
Disons que Star Wars n'existerait pas s'il n'y avait pas le mythe arthurien, quoi.
Alors, les personnages, il y a des personnages qui sont présents dans les légendes d'Arthur, mais il y a aussi des personnages fictifs, hein.
Bien sûr.
Hein, d'une manière générale, on peut dire que ces personnages, ils ont été modifiés pour correspondre à l'aspect un peu burlesque de la série.
Oui, même j'allais dire réaliste. De toute façon, ne serait-ce que de s'occuper de rétablir un côté humain à la légende arthurienne, ça suffit à faire de la comédie. C'est-à-dire, il suffit que les gens soient pas super efficaces pour que, bah, déjà, il y a une dimension qui naisse.
Puis, alors, chaque personnage, c'est l'incarnation des travers humains qu'on connaît tous. C'est ce qui est drôle dans la série. Alors, il y a la famille est très présente. Alors, il y a Simon Astier qui joue Yvain, le chevalier au lion, frère de Geneviève. Ça, c'est votre frère, votre demi-frère. Oui. Joël Sévilla qui joue Célie, la femme de Léo Dagan, mère de Geneviève, c'est votre maman.
Oui.
Et Lionel Astier, Léo Dagan, le roi de Carmélite, père de Geneviève, c'est votre papa.
Voilà. Alors,
vos parents sont vos beaux-parents dans la série.
Exactement. C'est ça. Voilà. Pour faire court, c'est ça.
Alors, ce qui est assez formidable dans la saga Astier, c'est que vous avez mis en scène, il y a déjà longtemps, vos parents.
Oui, au théâtre notamment, c'est vrai que je devais avoir une vingtaine d'années. C'est assez naturel en fait, comme c'est un peu notre on parle beaucoup de comédie, d'acteurs chez nous, ça a été vraiment assez naturel et ce sont des gens qui sont très disciplinés. Je pense que c'est même les acteurs les plus disciplinés avec
vous
moi.
Vous avez quel âge?
34.
Vous avez mis vos parents en scène, vous aviez quel âge?
20, et ils ont 20 ans de plus que moi.
Ils vous écoutaient?
Non, mais ils m'écoutaient religieusement. Ils écoutaient même les conneries. Ils faisaient tout. C'est vrai que c'est, on est très vigilant, par exemple, sur un plateau, quand on est ensemble, à ce que, ils se rendent absolument irréprochables. C'est vrai que quand on bosse en famille.
Ils oubliaient que c'est le fiston qui dirige. Hein.
Ouais, vraiment. Ils font, tout à fait. Ils ont confiance et, bon, je pense que je les trahis pas. J'essaie de leur donner des textes qui leur plaisent aussi, donc, mais en tout cas, ils sont vigilants et très, ouais, très 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 à cœur à ce qu'ils font.
Alors précision, vous avez dit à Nancy Correa qui a travaillé sur cette émission que vous êtes devenu assez maniaque sur la langue française.
C'est vrai. Et ça m'est venu tardivement. De toute façon, on parlait de la légende arthurienne, c'est exactement pareil. Ce qui m'intéresse le plus dans la légende arthurienne, c'est pas la littérature, c'est les faits. Le peu d'archéologie dont on dispose. Et ben, pour le français, c'est pareil. Pour le script, c'est pareil. Je me suis pris d'affection pour la grammaire, pour la ponctuation, pour les règles. Et j'essaye que mes textes ne soient pas simplement des documents techniques illisibles et un peu mal foutus. J'essaye qu'ils soient, dans le livre, par exemple, c'est moi qui l'ai mis en page, le bouquin, qui est organisé la typographie, voilà. Mais j'aime beaucoup ça.
Un petit exemple. On n'a pas le temps. Vous écrivez le M.
On n'a pas le temps, je l'écris parce qu'il se prononce pas. Donc c'est mieux de l'écrire.
Oui.
Par contre, vous n'avez pas le temps, je peux pas parce que ça change la phrase. Si je veux qu'ils disent vous avez pas le temps, je peux pas le mettre. J'en mets le plus possible. Voilà.
Alors, comment vous écrivez? Moi, je voudrais que les auditeurs qui nous écoutent comprennent comment ça naît une série. Avant de tourner les premiers épisodes de Kaamelott, je suppose que vous aviez déjà écrit pas mal avant, non?
Oui, tout à fait, pour la radio, pour le théâtre, etc. En fait, là, en ce moment, les épisodes de Kaamelott sont des 40 minutes, en ce moment. La saison 6 qui va sortir, ce sera des 40. Et les 40 minutes, il y a une première partie qui est purement de la structure, puisqu'il y a 9 épisodes, il y a une grande structure, d'une grande histoire de 6 heures, dont il faut tirer les lignes principales. Et puis après, il y a découper tout ça en le nombre d'épisodes. Et puis après, il y a rentrer dans le cœur des épisodes eux-mêmes, fabriquer les actes, etc., et la structure globale et le dialogue en dernier.
On va prendre un auditeur, apparemment, qui connaît bien la série, qui est un fidèle, qui est Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous habitez le Loiret.
Oui.
Alors, quelle question vous voulez poser à Alexandre Astier?
Alors, tout à l'heure, Alexandre Astier a parlé de la première chose qu'il a écrite, ce sont des jeux de rôle. Je sais que ça n'a pas très bonne presse aujourd'hui, mais je voulais savoir dans quelle mesure ça avait influencé l'écriture de Kaamelott.
Bonjour déjà. Et bonjour. L'écriture de scénario de jeu de rôle, en fait, ça a ça de particulier, c'est que vous êtes obligé, vous avez un public qui peut partir de votre histoire. C'est pas le cas au cinéma, c'est pas le cas à la télé. Dans un jeu de rôle, si les joueurs décident de faire autre chose que votre scénario, ils le font. Donc en fait, ça vous oblige à être ludique tout le temps et à être dans l'intérêt de l'histoire. C'est ça que ça m'a appris, en fait. Et je pense que c'est une très bonne école de scénariste, le jeu de rôle. Et effectivement, ça a un peu mauvaise presse. Je ne saurais encourager les parents de tout bord à laisser leurs enfants jouer au jeu de rôle qui est le plus beau jeu du monde, j'en suis persuadé.
Vous regardez la série régulièrement, Mathieu?
Ouais, j'ai les DVD, je me les repasse régulièrement en boucle, et à ce sujet-là, je sais que le livre 5 est sorti en Blu-ray, les premiers ont été tournés en HD, il me semble. Est-ce que on pourra les voir sortir en Blu-ray également?
Tout à fait. C'est vrai que la Kaamelott, c'est la première série en France à être tournée intégralement en HD. Donc les
haute définition.
Les Blu-ray vont probablement sortir un petit peu à échéance courte.
Un petit mot pour ceux qui savent pas ce que c'est que le Blu-ray.
Le Blu-ray, ce sont les DVD haute définition. Les DVD plus récents qui meilleure image, meilleur son.
En tout cas, Mathieu, pour le week-end, je vous conseille le livre 1, texte intégral. Entre les mains, édition Télémax, c'est le premier, il y en aura d'autres.
Je cours et l'acheter.
Très bien. Merci Mathieu.
Merci beaucoup et encore bravo pour la série.
Merci beaucoup.
Vous écrivez la nuit, vous écrivez le jour, vous écrivez tout le temps?
Beaucoup la nuit, ouais. Beaucoup la nuit. Je sais pas si c'est parce que tout le monde dort et que ça, c'est un calme. Mais déjà, quand j'écrivais de la musique et que j'étais gamin, j'attendais la nuit. Certainement parce que les autres dorment et que j'ai l'impression d'avoir du temps, quoi.
Alors vous imaginez aussi les décors?
Oui.
Les costumes?
Oui. J'en parle. J'ai de grands talents autour de moi pour fabriquer tout ça et inventer tout ça. Mais c'est vrai que je sais quand quelque chose correspond ou pas, quoi. Je réfléchis pas 50 ans. C'est juste ou c'est faux. Mais c'est pas. Je vois ce que je veux faire. Oui.
Alors, l'ordinateur, évidemment. Vous êtes un enfant de l'ordinateur.
Oui.
Vous n'auriez pas pu écrire ça il y a 30-35 ans.
Pas comme ça, en tout cas.
Non.
Surtout que les ordinateurs, j'ai même ce qu'on appelle les bases de données, je me fais aider informatiquement à écrire. C'est-à-dire que mes ordinateurs me rappellent même les sujets que je dois traiter. Et je me fais vraiment, j'allais dire, copiloter par les ordinateurs.
FileMaker.
Oui. Je parle des ordinateurs avec une pomme, puisqu'on peut me citer les marques.
Alors, vous avez un Write Robot.
Voilà, c'est ça. Mais c'est une base de données.
C'est un robot qui vous aide.
C'est ça, voilà. Je l'allume et même si j'ai pas dormi pendant 3 jours, il va me dire, il faut que tu fasses ça. C'est tel personnage qui doit faire ça pendant, voilà. À condition de l'avoir bien programmé avant, évidemment.
Est-ce que le moment le plus agréable pour vous, c'est pas quand vous composez la musique, puisque c'est votre passion de début?
Bah oui, et puis je pense que très honnêtement, l'image, le film reste, je pense, le plus beau support pour la musique classique aujourd'hui. Hein. C'est pas malheureusement, les salles de concert de musique classique sont pas toujours très pleines, alors que les plus belles partitions actuelles sont quand même composées pour le film. C'est
ouais. Quel est votre instrument de base?
La contrebasse, c'est par ça que j'ai appris. Et puis le piano, accessoirement, comme tous ceux qui écrivent, j'en joue mal, mais je m'en sers.
Oui. Donc vous avez écrit la musique, votre bonheur c'est d'écrire.
Ah oui, j'ai écrit la musique à partir de 10 ans, quand mon père m'a offert ma première boîte à rythme et que j'ai fait ce qu'on appelle un home studio. Quoi. Oui. Et puis j'ai étudié le contrepoint, l'écriture classique. Quoi.
On va retrouver Alexandre Astier dans quelques instants.
Voilà, c'était un peu de son de Kaamelott.
Vous avez enregistré où la musique?
Chez moi. Je ne bouge pas de chez moi.
Tout est fait à la maison.
Tout est fait maison.
Très bien. Alors, on a entendu la musique de Friends, justement. Parlons des séries américaines. Vous dites que dans les séries américaines, les personnages ne sont pas toujours crédibles parce qu'ils ne parlent toujours pas droit. Qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est pas tellement les séries américaines que j'adore et j'en bouffe absolument quotidiennement. Non, je parle plutôt des films américains dits épiques, type Le Roi Arthur, type ouais, Kingdom of Heaven et tout ça, où je trouve que, ou 300 même, le film 300 qui est un exemple pour moi, même si c'est un très beau film, je comprends pas comment est-ce qu'on peut parler comme ça. C'est-à-dire que toutes les répliques sont des phrases de bouquin. Ils sont toujours d'accord, ils sont toujours ensemble, ils se comprennent toujours. Moi, je trouve que le propre de l'humain, c'est justement d'être singulier. C'est la singularité qui nous distingue souvent des animaux. Et on a des films où il y a un type qui peut parler d'un truc comme le Graal, qui est un truc très abstrait, et tout le monde comprend. On a 50 personnes autour d'une table qui ont tout de suite compris ce que c'est que le Graal, alors franchement, c'est quand même très abstrait, le Graal. C'est une idée, c'est pas tellement un vase, quoi. Et voilà, moi j'essaye simplement de rétablir le truc. Je pense que tout le monde comprend pas. Il y en a qui viennent avec leurs problèmes, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui ont pas envie, il y en a qui ont pas compris, il y en a qui ont pas entendu.
Donc voilà. Quand vous écrivez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous pensez d'abord à l'acteur et à sa façon de parler.
Tout à fait. Je pense que c'est impossible. En tout cas, pour moi, c'est impossible d'écrire si je sais pas qui va le jouer. Même arrivé de foutre en l'air des textes parce que l'acteur pour lequel j'avais écrit ne pouvait pas venir.
Ouais. Vous dites que le langage, c'est pas de la communication, c'est une identité.
Exactement, c'est-à-dire que je trouve que des fois la télé en France, on a trop tendance à vouloir informer le public dans une réplique. Mais une réplique n'est pas là pour informer, une réplique est là pour dire qui est le personnage. Mmh. Et c'est des choses qui sont trop souvent oubliées, et ce que les Américains n'oublient pas justement. Je trouve que les Américains dans les séries dialoguent très très bien.
Alors on va écouter un autre extrait, ça se livre de, un petit mot, le jeu du caillou.
Très très important le jeu du caillou, c'est très précis.
Qui met en scène Caradoc et son frère Cadoc.
Voilà.
C'est quoi le jeu du caillou? C'est un jeu con, quoi.
Je suis pas persuadé de savoir moi-même. Mais ça ressemble de loin à un jeu où faut s'approcher d'un mur avec des cailloux, je sais pas. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez.
Et puis il y a caillou et caillou.
Hein. Puis il y a caillou et caillou.
On l'écoute.
Seigneur Caradoc, mais qu'est-ce que vous fabriquez là?
Vous connaissez pas le jeu du caillou?
Vous croyez que c'est malin de faire ça?
Ah, c'est sûr, je préférerais jouer aux quilles. Mais mon frère, le jeu du caillou, il n'y a que ça qui comprend.
Vous croyez qu'il serait content, Arthur, de vous voir vous tourner les pouces?
Ça va, je m'occupe de mon frère.
Et vous n'avez pas quelque chose de plus intelligent à lui faire, votre frère?
Mais il ne peut pas les faire, les choses intelligentes. Hier, je l'ai emmené au poulailler, il a tué 2 poules avec une bassine.
Elle est où, la poulette?
Si vous croyez que c'est facile.
Mais qu'est-ce qu'il fait là, votre frère, d'abord? Il n'a pas un chez lui?
Chez ma tante, mais elle me l'a collé dans les pattes. Il me crève. D'ailleurs, si vous pouviez me remplacer le temps que j'aille pisser.
Quoi ? Mais vous allez pas bien, non ?
Je peux pas le laisser tout seul, il va attaquer quelqu'un.
Mais qu'est-ce que j'en ai à fiche de vos histoires ?
Il faut juste faire attention qu'il vous lance pas le caillou dans la tête.
Ah ! Là, ça fait un point pour moi, là.
À Cadoc.
De quoi ?
De quoi ?
Qu'est-ce que vous avez dit ?
Où est la poulette ?
Vous jouez plus ?
À Cadoc.
Qu'est-ce que vous chantez, bon sang ?
Il dit que c'est à lui de jouer. C'est lui, il s'appelle Cadoc.
À Cadoc.
Ah ben mon vieux, c'est pas simple.
Alors faut pas essayer de parler quand je suis pas là, ça a un coup à piquer une crise de nerfs. Allez, jouez !
À Cadoc. Bah oui, il s'appelle Cadoc.
À Cadoc.
Cadoc. Alors, bon, vous arrivez à garder votre sérieux quand vous tournez tout ça ?
Pas tout le temps. À en voir la taille exponentielle des bêtisiers de coffret en coffret, je crois que non, c'est de pire en pire.
On va prendre en ligne un auditeur qui habite, je crois, en Gironde, c'est Bertrand. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Alors vous nous appelez de Talence. Alors allez-y, je vous laisse parler avec votre idole, car c'est votre idole, Alexandre Astier.
Ah totalement, ouais. Je suis un plus grand fan. J'ai le même âge que lui, donc je me reconnais totalement dans ce qu'il fait. Et voilà, d'ailleurs, je voulais dire effectivement que Kaamelott, c'est pas uniquement une série qui s'adresse à des adolescents. Je crois qu'il y a beaucoup de trentenaires qui apprécient cette série pour la qualité de ses dialogues. Voilà, et puis j'écoutais Alexandre Astier qui parlait de ses référents, Audiard, et c'est vrai que voilà, Audiard, des proches, tout ça, c'est des choses qui ont bercé aussi beaucoup de trentenaires. Donc,
quelle est votre profession, voilà. Pharmacien. Pharmacien à Talence, c'est ça, à peu près.
C'est bien ça.
Donc vous êtes un accro de la série.
Ah oui, je suis un grand fan et je trouve que on rend pas assez hommage à l'œuvre originale qu'Alexandre Astier vient de mettre sur pied. Et c'est dommage parce que je trouve que voilà, il y a eu Audiard, il y a eu des proches, il y a eu Coluche et souvent on a reconnu leur talent. Après qu'il nous ait quittés, et je trouve bien de pouvoir rendre hommage à des grands auteurs.
Oui, on pourrait même citer Dac et Francis Blanche.
Hein bah, allons-y, oui, moi, de toute façon, tout ça, ça me va, hein, ça me va très bien, tout ça.
Dis-moi, quelle question vous voulez lui poser, Bertrand ?
Je voulais savoir quelle était la suite de son œuvre, quels étaient ses projets pour les années à venir, si la série allait passer sur grand écran.
Bah, en deux mots, la série, donc la dernière saison de la télé, ce sera la sixième qui sera donc dans une soirée au Grand Rex le 25 mars.
Oui, on a entendu.
En preview, et puis en avril normalement sur M6 en diffusion, ce sera des 40 minutes. Les longs métrages sont évidemment prévus. Hein. Ce qui est prévu, c'est 3 longs métrages. Je ne sais pas quand tout à fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon premier film de cinéma mis en scène, joué, etc., sera avant ces films-là. Je vais probablement tourner en automne avec un acteur pour lequel j'ai écrit, qui m'a dit oui. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui c'est, mais voilà, c'est un film qui ne sera pas une comédie d'ailleurs, pas forcément. Ce sera plutôt un film intime et un drame, voilà, que j'avais envie de faire avant. Donc, je pense que Kaamelott au cinéma, ce sera mon second film. Voilà.
Bon, donc Bertrand, vous qui êtes pharmacien, vous considérez que Kaamelott est un bon médicament ?
Exactement.
Prescrivez-le, s'il vous plaît.
Dans le contexte aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur.
Merci, cher Bertrand. Alors, parlons de vos acteurs, parce que c'est vrai que ce sont des acteurs de théâtre. On va les citer. Il y a Anne Girouard, il y a Thomas Gousseau, Franck Pithiot, Jean-Christophe Ambert, Brice Fournier, Alain Chapuis, Simon Astier, Joël Sevilla, Lionel Astier, Christian Bugeaud, entre autres. Tous ces acteurs, on l'a dit, sont des acteurs de théâtre.
Oui.
Comment ça fonctionne ? C'est une famille, Kaamelott ?
Ça le devient, malheureusement. On se voit pas tant que ça, puisque en fait on tourne, même si on tourne une saison par an, je dois tourner, je sais pas, quelque chose comme 50-60 jours. Et puis
60 jours et 3 épisodes par jour.
Voilà, maintenant ça va mieux, maintenant on a un peu plus de temps par jour, mais de toute façon, Kaamelott, c'est toute mon année, c'est pas toute leur année à eux. Eux, ouais. Ils viennent quelques jours nous voir. En revanche, on les reconnaît pour ça. On leur en parle beaucoup dans l'année. Ils sont devenus un peu, pour certains, ils sont reconnus pour ça. On les reconnaît dans la rue.
Ils ont d'autres propositions.
Bien sûr, qui découlent de ça. C'est vrai qu'Anne Girouard a tourné avec Christian Clavier depuis. Oui, c'est vrai qu'ils sont. Ça a été un pas certain, mais on n'a pas vraiment de vie de famille, de vie troupe. Au contraire, je suis assez solitaire devant mon ordinateur, comme vous le disiez. Quand même, ça, c'est la majorité de mon temps. Elle est solitaire et misanthrope, oui.
Et alors, ils ont été faciles à convaincre tous ces guests comme Bedos, comme Clavier, comme Chabas, Semoun, le Bollock et Bruno Solo, c'était plus facile. Mais les autres, ils sont venus facilement, comment ?
Honnêtement, oui. Sur le texte, je pense qu'ils avaient envie de faire ces textes-là. C'est pas, je sais pas. Kaamelott a eu suffisamment bonne presse tôt pour que ce soit bien de venir et quand voilà, moi ce qui aurait pu entacher le truc, c'est la télé, c'est-à-dire que les gens que vous avez cités comme Chabat, comme Clavier, comme c'est des gens qui avaient pas forcément un projet de faire de la télé. Donc les amener à la télé, c'était par le texte. Il fallait que le texte les amuse, il fallait qu'ils aient envie de jouer ça avec les acteurs présents. C'était la seule chose que je pouvais faire pour les harponner.
Qui sont les prochains guests qui vont apparaître dans le livre 6?
Dans le livre 6, je les appelle plus les guests parce qu'en fait ils ont des rôles tellement récurrents, tellement tout le long de la série que leur apparition est pas du tout ponctuelle. Mais il y a Patrick Chenet, il y a Checky Carrillo, il y a
Berroyer,
Manu Payet, ouais. Jackie Berroyer.
Pierre Mondy, on m'a dit aussi.
Pierre Mondy qui joue César, qui est extraordinaire, absolument extraordinaire. Pierre Mondy, je tiens à le dire, ça, on dit pas son âge, mais vous le trouverez sur Internet, m'a quand même balancé un monologue de 3 pages que je lui avais donné le matin même. Il s'est mis dans sa loge, il a bossé une demi-heure, je transpirais, je me suis excusé 5 fois de le faire. Il est arrivé sur le plateau, on a fait 3 prises, les 3 prises sont à la virgule près. J'ai jamais vu ça.
Mais d'ailleurs on peut donner son âge, je crois qu'il a 80 ans.
Je crois qu'il a un peu plus.
Un peu plus, oui, absolument.
Donc voilà, c'est impressionnant. Voilà, c'est très impressionnant.
Il y a aussi Marthe Villalonga qui a joué la mère de Perceval,
ouais,
j'ai vu ça quelque part.
Tout à fait.
On a quelqu'un d'autre en ligne ? Anne-Marie qui habite dans le Rhône. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour Alexandre.
Bonjour. Et
bonjour Michel.
Bonjour madame.
Moi je suis issue aussi du jeu de rôle, donc je voulais poser une question. Alors je suis fan de Kaamelott et je suis super stressée.
Oui. Et c'est pas grave, nous aussi on est tous stressés.
J'ai croisé Boert dans le métro.
Oui.
Et quand j'ai croisé son regard, j'ai eu l'impression qu'il était complètement tétanisé et mort de trouille. Et je voulais savoir si pour Perceval et Merlin que j'adore, c'est la même chose.
C'est pas ça. C'est que quand on doit prendre le métro et puis qu'on risque d'être reconnu, c'est un petit peu stressant. Ouais. Moi, récemment, j'ai dû prendre le bus parce que mon taxi m'a planté pour aller à la gare. Je me suis caché dans un coin du bus au fond à Lyon, tout ça. Et puis le chauffeur qui m'a reconnu a pris le micro et il a dit « Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le roi Arthur dans le bus. » Donc tout le monde s'est retourné, je suis descendu, c'est l'horreur. Non voilà, le petit stress, c'est juste ça, c'est le monde.
Ah oui, non, parce que ça m'a fait rire, j'ai eu l'impression d'avoir Boert en face de moi.
Ah bah quand même, je prends un peu de leur personnalité pour écrire, oui. Hein, je ne fais pas ça à partir de zéro.
Voilà, donc sinon, je vais m'arrêter là parce qu'après ça va être trop long et incompréhensible. Donc je voulais juste donner mes félicitations à Alexandre Astier
merci beaucoup.
Pour tout ce qu'il fait.
Merci.
Voilà. Je rappelle qu'Anne-Marie est de Lyon.
Hein. De Lyon, ah, oui. Voilà. J'ai fait du jeu de rôle, des grandeurs nature.
Ah, très bien.
Bon, merci beaucoup, chère Anne-Marie.
Parfait. Au revoir, merci.
C'est vrai que quand on fait une série qui devient une série culte, on passe moins inaperçu. Hein.
Oui, c'est un truc à gérer. C'est pas à vous que je dois dire ça. Mais
on est tombé dedans il y a 45 ans, mais vous, c'est récent.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas... Je sais pas comment dire. Là où c'est bien, c'est que les gens qui viennent, soit aux dédicaces, soit aux trucs comme ça, viennent parce qu'ils apprécient vraiment le truc. Donc ce sont des gens, même quand on m'aborde dans la rue, c'est toujours extrêmement courtois et c'est gentil. Bizarrement, c'est plus dur pour certains. Je l'ai vu, par exemple. Mais je trouve que par exemple mon pote Elie Semoun, quand on l'aborde dans la rue, on le prend pour un de ses personnages. Souvent, on lui tape la main dans le dos, on le tutoie immédiatement. Ouais. Alors il est extrêmement gentil et très courtois et évidemment il dit rien. Mais c'est pas évident quand même.
Ah ben. Tous ceux qui font rire, Bedos vous dirait la même chose, c'est que quand ils sont dans la vie ou dans un restaurant, alors faites-nous marrer.
C'est ça. On a l'impression que c'est des potes, quoi, alors qu'en fait, tout à fait.
Oui, bien sûr. Alors, pour la famille Astier, ça a changé quoi ? C'est-à-dire que vos parents étaient comédiens de théâtre. Vous êtes devenu maintenant, évidemment, le plus connu de la famille.
Hein, pour le moment.
Pour le moment.
Oui.
Et puis ça va pas s'arrêter là, puisque vous êtes encore très très jeune. Ça change rien dans les relations avec la famille?
C'est un cap à passer. Si effectivement, de toute façon, encore une fois, la renommée, comme ça, le fait de passer dans un domaine très public, comme je suis très épargné par les journaux à scandale. J'ai pas de scandale dans les poches pour le moment, mais c'est vrai que c'est, il faut le gérer quand même.
Et puis la seule relation passionnelle que vous avez, c'est un secret pour personne, c'est avec votre ordinateur.
Voilà.
Donc on peut pas faire grand chose.
J'ai également 4 enfants, mais comme ils sont légitimes pour le moment, ça intéresse pas grand monde.
Vous avez vraiment 4 enfants?
4, oui.
Ah, vous êtes papa très tôt, hein.
Bah, oui.
Quel âge ont-ils?
Ils ont 9, 8, 5 et 2 et demi.
Alors là, ils sont les...
Et si vous voulez un scoop, il y en a un cinquième qui arrive.
Ah bon?
Voilà.
Mais on peut imaginer qu'un jour, ils vont être dans la série, eux aussi?
Ils y sont déjà.
Ça y est, ils y sont.
Mais monsieur Drucker, ils y sont déjà. Je vous donnerai les numéros.
Ah oui, ça y est.
Tout à fait. Et bon, ils ont tous fait un truc. Y compris le petit qui avait 1 an et demi. Alors, il a pas de dialogue, hein. Mais il a une petite apparition.
Comment vous expliquez? Parce que vous êtes en face de moi, là. Et depuis déjà presque 1 heure et demie. Et je le redis parce que je sais pas si les auditeurs imaginent ce que c'est. Vous avez 35 ans, même pas. Vous êtes, compositeur. Vous êtes scénariste. Vous écrivez toute la série ou presque, vous mettez en scène, vous distribuez, vous jouez, vous avez 5 enfants bientôt. Et vous n'avez que 34 ans. Expliquez-moi quand même ce qui s'est passé. Vous êtes un surdoué, vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, parce que c'est la première fois depuis que je fais ce métier, vraiment je vous le dis, et de ce si j'ai vu passer sur les plateaux de télévision 3 générations d'acteurs, de scénaristes, de metteurs en scène, de romanciers, c'est la première fois que je vois quelqu'un, hein, Julie, qui est capable de faire autant de choses si jeune. Et alors, comment vous expliquez ça? Vous avez une enfance particulière? Vous avez quelque chose? Il y a eu un déclic, parce que être doué pour autant de choses, c'est rarissime. Même aux États-Unis, il n'y a pas ça. Comment vous expliquez ça?
C'est très flatteur. Non,
mais c'est la vérité.
Ça voudrait dire
quand on parle de vous, tous ceux qui me parlent de vous disent la même chose, hein, que je viens de vous dire.
Eh ben, écoutez, c'est très difficile de répondre. Peut-être qu'il y a quelque chose, c'est que ma mère et moi, on a vécu dans un environnement assez pas défavorisé, mais on n'a pas beaucoup de pognon et on était un peu tout seul. Et ma mère, qui avait tout juste 20 ans de plus que moi, est comédienne, elle dénotait probablement un peu des parents d'élèves du conservatoire qui venaient chercher tout ça. Nous, on avait une bagnole un peu pourrie, tout ça, c'était pas Cosette, hein. J'ai eu une enfance très heureuse, mais il y avait un peu une différence. Et je pense que je suis dans une entreprise de rédemption de tout ça. Je sais pas si je suis pas en train d'essayer de dire à tous ceux qui se disaient que ma mère m'élevait un peu toute seule, un peu mal, ou un peu machin, ou que c'était un peu la bohème. Je sais pas si je suis pas en train d'essayer de prouver que c'est eux qui avaient tort.
Ouais.
C'est possible.
Puis alors, bon, vous venez d'un milieu modeste, mais vous étiez très heureux, mais on relait pas sur l'or dans la famille, ça je le sais. Et là, vous êtes en train d'être à la tête d'une petite usine, hein. Bon.
Oui.
Comment vous gérez ça? L'apparition, justement, du confort, tout simplement. Pour ne pas dire de l'argent.
Ça se gère aussi. J'aime pas l'argent. Et en fait, en avoir, ça permet de ne pas s'en occuper.
C'est la liberté, surtout, d'être là.
Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que je ne m'en occupe pas. On ne m'appelle pas pour me dire que j'en manque. Ouais. C'est ça le luxe. C'est-à-dire que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Avec mes enfants, on a envie de partir, on s'en va, mais c'est pareil, ça se gère. Tout se gère.
À tout de suite.
On reçoit ce matin et jusqu'à 11h Alexandre Astier, on parle de Kaamelott, le phénomène Kaamelott.
Alors justement, il y a beaucoup de questions, beaucoup beaucoup de questions. Est-ce que pour certaines scènes, c'est de l'impro ou est-ce un rôle écrit à la virgule près?
Non, c'est à la virgule près. Justement parce que, mais ceci dit, encore une fois, c'est écrit sur mesure, donc oui. L'acteur a pas, je le dis parce qu'ils me l'ont dit eux-mêmes, ils ont pas tellement envie de bouger les choses. Et l'impro, non, on n'a pas fait. Il doit y avoir peut-être 1 ou 2 séquences d'impro avec des gens à qui ça plaît de le faire, qui sur 6 saisons, il y a que ça. Sinon, c'est à la virgule près, oui.
Alors, je suis fan des séries américaines et Kaamelott est la seule série française de qualité. Une fan de vous, hein, qui appelle de la région parisienne et qui dit voilà que vous êtes un type épatant. Pure réussite, écriture, humour. Question également, est-ce que la série va être traduite en anglais?
Elle est sous-titrée sur les DVD depuis 2 ou 3 saisons, je ne sais plus. Les Anglais sont très, comment dire, ils préfèrent les choses qu'ils fabriquent eux, hein. Ils importent peu de choses, et surtout l'humour arthurien, ils ont déjà eu leur dose, je pense, de talent bien supérieur au mien, donc je pense pas qu'il soit très... On verra, peut-être, ça peut arriver, mais pour le moment, ils en ont pas besoin.
Question de Pascal dans les Yvelines. Qu'est-ce qu'Alexandre Astier n'aime pas faire? Est-ce qu'il y a des gens connus qui ont voulu participer et qui n'ont pas été retenus? Est-ce qu'il souhaite tourner avec des gens en particulier? Est-ce qu'il écrit en partition vraiment pour une personne connue, différemment que des personnes inconnues?
Je pense que non, j'essaye de... les acteurs qui sont venus dans Kaamelott, c'est des gens que j'avais envie de faire jouer. Soit de jouer avec, soit d'écrire pour. J'ai pas répondu à des gens qui voulaient venir là parce qu'ils avaient envie de faire une activité people, quoi. Ça n'est pas arrivé.
Ah oui, absolument.
Non, pas trop, parce que... Alors, d'ailleurs, j'aurais pas su quoi en faire.
C'est alors, les gens, les guests sont plus célèbres que ceux qui sont au départ de la série.
Oui.
Mais je remarque que, par exemple, Clavier ou les autres ont dû rencontrer sur la série des acteurs qu'ils connaissaient pas et qui les ont inspirés, peut-être, non?
Mais Clavier,
il y a eu des rencontres intéressantes.
Clavier, il voulait venir jouer pour jouer avec mon père et ma mère. C'est soi-disant, c'était les acteurs qu'il trouvait super bien. Et Anne Girouard qui joue Guenièvre, d'ailleurs, qu'il a pris dans L'Auberge Rouge.
Oui, absolument.
Anne est dans L'Auberge Rouge. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait envie de venir s'amuser avec des comédiens qu'il avait appréciés à la télévision. Donc il est venu et j'ai écrit un rôle dans lequel il croisait souvent ces personnages-là, exprès.
Alors, on va écouter un autre extrait, livre 3, Le Chevalier Errant. Un petit mot du Chevalier Errant?
Le Chevalier Errant, la saison 3, c'est la saison où les choses commencent à s'assombrir, où les épisodes commencent à devenir feuilletonnants. La saison 3, c'est celle où il faut pas regarder la saison dans le désordre. C'est celle où on la comprend pas si on est dans le désordre.
Alors ça, Arthur et Carlo Grenant qui se croisent en forêt, hein.
Oui, c'est ça, exactement.
Écoutez, celui-ci se montre dès qu'il apprend qu'on le dit mort à Kaamelott, le bruit court qu'il est mort. Écoutez.
Désolé, sire, mais je vois pas bien à quoi ça sert que je vous escorte si vous marchez sans pied derrière.
Pas besoin d'escorte.
On en a déjà discuté, sire.
Mais justement, à part recommencer. Rien de particulier pendant mon absence?
Non, sire. On a craint une incursion angle, mais c'était une fausse alerte.
Une nouvelle de Lancelot?
Non, sire.
Vous déconnez?
Silence complet.
Putain, mais personne ne l'a aperçu quelque part?
Bah non, ni au village, ni sur les routes, nulle part.
J'espère qu'il lui est rien arrivé.
Sire.
Quoi?
Bah, je sais pas comment vous dire ça, mais il y a un bruit qui commence à courir dans la région.
Quel bruit?
Ben un bruit comme quoi vous vous seriez pris de bec avec Lancelot avant votre voyage à Rome, que ça aurait tourné au vinaigre et que vous l'auriez tué.
Quoi?
Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bruit qui court?
Lancelot?
Non, c'est dingue ça. Les gens vous voient pas pendant 3 semaines, alors ça y est, vous êtes mort.
La vache, vous avez pas reconnu.
Mais je comprends pas, vous sortez d'où là?
Qu'est-ce que vous faites là?
Où ça là?
Dans la forêt.
Ben j'habite là, la moitié du temps.
Non, mais je veux dire en pleine brousse.
On en a déjà parlé ici. La moitié du temps, je reprends mon statut de chevalier errant.
Non, mais je sais, mais moi je croyais simplement que vous faisiez moitié Kaamelott, moitié, j'en sais rien moi, une auberge de voyageurs.
Je sais pas si vous êtes bien intime avec le concept d'errance.
Déjà un chevalier errant à mi-temps.
C'est pour pas laisser tomber les pantins de la table ronde que je fais du mi-temps. Ce serait que de moi, il y a longtemps que je verrais plus leur tronche.
Eh oh, oh, ça va, oui?
Excusez-moi, sire.
Et je rappelle quand même que les séances de la table ronde ne sont pas obligatoires. Si c'est pour venir à contre-cœur, vous pouvez très bien vous abstenir.
Ah bah d'accord. Ce sera pas difficile de faire plus constructif. Un village à Saïd Brégand, une femme qui se fait tabasser, une poule qui boite, c'est pas les opprimés qui manquent. Et là au moins, j'aurai l'impression de servir à quelque chose.
Seigneur Lancelot, faites pas le con.
Eh oh! Par contre, les séances de doléances en salle du trône, ça, vous êtes obligé d'y être.
Eh ben j'y serai!
Ouais, il faut être conscient du concept d'errance. Chevalier errant à mi-temps, c'est pas évident.
Non. Thomas Cousseau, qui est un grand acteur de théâtre que j'aime beaucoup.
Dites-moi, quand vous écoutez ça, vous vous souvenez dans quel contexte vous avez écrit ça? Vous oubliez beaucoup parce que vous avez tellement écrit.
Le but du jeu est de me taper les séries de Kaamelott comme je me tape les Lost et Friends et compagnie. Donc il faut que j'attende de les oublier. J'ai l'impression que ça se situe entre un an et demi. Si vraiment j'ai rien touché, parce qu'après je m'occupe des DVD, je m'occupe de refondre tout ça. Si vraiment j'ai pas entendu de Kaamelott pendant un an et demi, je regarde la série comme si c'était la série de quelqu'un d'autre. Voilà.
Alors on va écouter Anaïs, peut-être une angine, extrait de l'album The Love Album, puis après on parlera du comédien, parce que vous êtes comédien quand même, il y a aussi votre carrière d'acteur.
Il paraît.
À tout de suite.
Voilà, on est avec le roi Arthur, roi de Bretagne, Alexandre Astier.
Bien sûr. C'est fou le nombre d'appels qu'il y a pour vous. Je vous les laisser tout à l'heure, mais il y a beaucoup, beaucoup d'appels. Mais d'abord, un petit mot. Vous parliez de Audiard tout à l'heure, le langage de la rue, à la fois iconoclaste, irrévérencieux et très imagé. Mais il y a aussi une référence dans votre série, c'est Astérix et Obélix, les Romains et les Gaulois.
Oui, oui.
Il y a un clin d'œil à Goscinny.
Tout à fait. Ah oui, oui, Goscinny, c'est... Mais c'est pour ça que j'avais accepté avec grand bonheur de faire Astérix 3. C'est que vraiment tout ce qui est instigé par Goscinny en termes de script, c'est d'une modernité absolue. Je vais dire un truc horrible, mais c'est très américain, Goscinny, comme script. C'est une manière très, très particulière de manier les actes et c'est très moderne, quoi.
Oui, le combat des chefs est dans la série. Hein.
Ouais.
On va prendre au téléphone. Alors, j'ai plusieurs appels. Attendez, qui j'ai au téléphone? C'est Sébastien, c'est ça. Bonjour Sébastien.
Bonjour Michel, bonjour Alexandre.
Bonjour. Alors,
vous appelez de Bretagne, c'est ça, de Brest, hein?
J'appelle de Brest, oui, tout à fait. Hein. Oui, il fait très très beau aujourd'hui, je tiens à le souligner. Et
comme toujours, c'est bien connu.
C'est une blague ou c'est vrai?
Non, c'est pas une blague, là. Je suis moi-même étonné.
D'accord.
C'est un temps à sortir le catamaran de Kersauzon, alors.
Voilà, c'est presque ça, oui.
Alors dis, quelle est la question que vous voulez poser à Alexandre Astier?
Alors écoutez, la question c'est, je voudrais revenir sur son talent d'auteur notamment. J'écris moi-même et je voudrais savoir s'il avait des moments de la journée ou des périodes où il écrivait plus que d'autres. Et quand il était en manque d'inspiration, ce qu'il faisait pour venir puiser une autre source d'inspiration ou retrouver un petit peu des idées.
Quand vous êtes en panne.
Alors, c'est un peu compliqué. Je suis pas persuadé que les recettes marchent pour tout le monde. La mienne, en tout cas, parce que mon problème principal, c'est l'autocritique. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais je suis trop en forme, je sabre toutes mes idées. J'ai l'impression qu'elles valent rien. Donc, pour que j'écrive, en fait, il faut que je sois épuisé. C'est l'épuisement qui me fait écrire. Après, il y en a qui prennent des substances, des machins. Moi, je touche à rien. Donc, l'épuisement, quand j'ai une bonne nuit blanche dans la tête, j'écris énormément parce que je juge plus ce que j'écris. Tout le problème étant d'arriver à ne plus juger ce que j'écris. Et moi, j'ai trouvé que ça pour le moment. C'est pas très brillant, mais ni très bon pour la santé d'ailleurs. Mais bon, voilà. Si vous voulez une recette, en voilà une.
D'accord. Donc, c'est plutôt la nuit alors.
C'est plutôt la nuit ou c'est plutôt dans des moments. Je suis perturbé par la moindre inquiétude. Si c'est le moindre truc, une engueulade au téléphone, un truc bidule, je peux plus écrire. Je suis hypersensible à l'environnement.
Il faut qu'il y ait un vrai environnement favorable.
Ah oui oui. Par exemple, quand mes enfants dorment dans la baraque et que tout est éteint et que c'est bien tard et qu'il fait chaud et que voilà, je prends un carré de chocolat et je peux y aller. Là, je peux durer. Là.
Voilà Sébastien, merci.
D'accord. Au revoir
Sébastien.
Merci.
Au revoir. Au téléphone Sophie. Bonjour Sophie.
Oui. Bonjour à tous.
Bonjour Sophie, bonjour. Alors je vous laisse interroger Alexandre.
Oui, moi, ma question c'était de savoir s'il avait des inspirations, justement, il parle d'inspiration, au niveau de ce qui se passe, de l'actualité politique. Par exemple, est-ce que maintenant c'est la crise, est-ce qu'il va le remettre dans la série? Parce que, par exemple, on voit les révoltes des paysans, on voit beaucoup de choses qui finalement, moi ça me fait penser à la politique, est-ce que ça l'inspire?
Non, en fait, pas l'actualité. Je regarde jamais l'actualité. En revanche, je trouve que l'actualité est toujours la même. C'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est que les paysans pas contents, effectivement les révoltes, les luttes de pouvoir, les trahisons, ce ne sont pas des choses qui sont datées d'aujourd'hui. Malheureusement, elles sont là depuis la nuit des temps, depuis que la première tribu d'hommes préhistoriques a existé. Il y a eu des trahisons et des gens qui voulaient devenir plus gros que les petits. Donc, je suis plus, j'allais dire, générique que ça. Je m'inspire des choses qui, au contraire, passent les époques et les modes. Donc, je suis pas trop sur l'actualité, non.
C'est parce qu'à un moment, il y a une référence aussi au guignol de l'info. On les voit qui regardent des poupées. Moi, ça m'avait... À ce moment-là, je m'étais dit, tiens, c'est...
Alors, effectivement, il y a un épisode qui s'appelle Poupi, où il regarde un spectacle de marionnettes. Ouais. Malheureusement, je suis de Lyon, donc c'est pas les guignols de l'info, mon inspiration, c'est le vrai guignol.
J'ai compris tout à l'heure, en écoutant que vous disiez Lyon.
Oui, et même, non, en fait, les poupies sont des marionnettes italiennes, que Molière regardait beaucoup, et qu'il aimait beaucoup, et voilà, comme ma mère me parle beaucoup de Molière, depuis longtemps, c'est plutôt à ça que ça fait référence, et pas tellement au guignol de l'info, que j'adore, entre parenthèses.
Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que vous avez travaillé, Alexandre, avec un historien?
Non, pas tellement. Les documentaires qui s'appellent Aux sources de Kaamelott, qui sont dans les bonus DVD à partir du livre 2, eux ont été faits avec la collaboration de d'universitaires, de spécialistes du roman arthurien. Mais en fait, c'est un documentaire qui est là pour voir ce qui est vrai ou faux dans la série. C'est le but du documentaire. Donc effectivement, c'est aussi la mission du journaliste Christophe Chabert qui fait ces documentaires d'aller voir. D'aller trouver ces réponses où elles sont. Mais moi, personnellement, mes seules sources techniques sont des bouquins archéologiques, en fait, surtout. Mmh. Des fouilles, des... plutôt ça.
Merci beaucoup. Dites-moi, il y a Raphaël qui nous appelle de Paris, qui trouve la série formidable, qu'il a découvert au Canada. Voilà, il y a de plus en plus de gens qui ont
Bigre.
Découvert, oui, qui ont découvert au Canada. Alors, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre. Apparemment, vous n'étiez pas un bon élève.
J'étais un très bon élève, c'est un peu compliqué. Je faisais partie des élèves qui sont bons sans rien faire. Ouais. Et il y a une année, à un moment où sans rien faire, ça suffit plus. Et donc, j'étais un très bon élève et puis au bout d'un moment très mauvais parce que j'y allais plus au collège, en fait. J'ai cessé d'y aller.
Ah oui, carrément.
Ouais, ouais.
Vous arrêtez vos études quand?
Le plus tôt possible.
Vous avez passé le bac?
Non.
Ah, vous êtes parti avant?
Non, j'ai rien passé du tout, j'ai tout réappris après, parler anglais, français...
Avec vos propres outils à vous?
Tout seul, oui, mais parce que j'aime bien ça, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment pas être seul, mais moi seul, je me sens très bien.
Et un jour, vous avez décidé, vous aviez quoi, 16-17 ans?
16 ans, oui, 16 ans.
De ne plus retourner à l'école?
Oui, je suis même plus retourné à l'école avant ça, c'était interdit bien sûr, mais j'ai très très vite abandonné l'école. En revanche, j'ai pas abandonné la musique, hein. J'ai fait des études supérieures en musique, j'ai un prix de conservatoire, tout ça, mais je veux dire l'enseignement général, je suis parti, c'est vrai, les jambes à mon cou.
Vos parents vous ont laissé libre de faire ce que vous vouliez?
J'ai pas eu à forcer beaucoup, non. Effectivement, ma mère, qui me connaît très bien, a dit c'est probablement pas là que t'as la meilleure chose à faire. Et puis elle savait que je précise, hein, que j'ai tout réappris après. Je ne me désintéresse pas d'apprendre, bien au contraire, c'est la chose que je préfère. Mais la notion de groupe, de collège, de classe, c'est quelque chose qui m'a été très vite difficile et que j'ai pas pu supporter. J'avais une impression d'une grande souffrance et d'une perte de temps incroyable. C'est pas vrai pour tout le monde, attention.
Ça me rappelle quelque chose.
Bon, bah,
coup de téléphone. Je suis en Chine. Je vous écoute depuis la Chine. Quand Kaamelott passera sur TV5? Parce que TV5
monde. Quand on sera reconnu d'utilité franco-mondiale, je sais pas.
Ouais, et puis je crois que surtout en priorité, ce qui passe sur TV5 monde, c'est beaucoup d'émissions du service public.
Bien sûr, hein, bien sûr, évidemment.
Oui, à cause de la pub et tout ça. Absolument. Autre question, à quand un jeu éducatif sur Kaamelott, genre Trivial Pursuit par exemple? Il y aura des produits dérivés de Kaamelott?
Il y en a, bien sûr. J'essaye d'y apporter un soin très particulier. Donc c'est pas des produits dérivés comme ça, parce qu'effectivement on me propose des ventes de licences très souvent. Mais non, j'essaye de bien faire. La bande dessinée, par exemple, est un produit dit dérivé, mais c'est quand même un script original. C'est quand même un jeu. On m'a proposé beaucoup de choses que j'ai refusées pour le moment, mais ça va venir un jour, la bonne idée.
Alors, il y a une dame qui dit j'ai 40 ans et je suis fan. Voilà, je m'appelle Frédéric et c'est mon fils de 20 ans qui m'a fait découvrir Kaamelott. Je suis accro, hein, je suis fan à 100%. J'adore les acteurs, je lis tout, je collectionne tout. Elle est assistante maternelle. On a eu beaucoup, beaucoup d'appels pour vous, Alexandre. Hein, c'est vraiment impressionnant. J'aimerais savoir maintenant que la série est finie, à quel rythme vous allez écrire les tomes suivants de la bande dessinée?
Je vais essayer de conserver un par an, si j'y arrive.
Un par an.
Voilà, mais avec les... C'est possible.
Alors, ce qui me frappe, c'est un lien avec ce que vous venez de dire, et la scolarité qui était parfaite pour vous, en tout cas ce modèle-là, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de profs qui nous appellent, qui ont entendu cette dame d'Armentières, et qui disent finalement, les DVD nous sont bien utiles, et c'est vrai que la série Kaamelott peut aider beaucoup nos élèves à s'intéresser à l'histoire. Ça c'est assez étonnant après ce que vous venez de dire.
Mais
qui n'avez pas trouvé les bons pédagogues de l'époque.
Oui, non, je précise ce que j'ai dit. Je suis quelqu'un qui adore apprendre et qui est toujours adoré apprendre. J'en veux un peu au système de m'avoir entre guillemets lassé.
Vous n'êtes pas le seul.
Voilà, et je suis en train d'ailleurs, une petite parenthèse, de créer une école moi-même pour mes enfants.
Ah oui.
Parce que je Ma grande est revenue du CP le deuxième jour en disant « oh là là, j'ai des devoirs pour demain ». Et le fait de l'avoir culpabilisé, j'ai voulu changer ça.
Merci Alexandre. On en connaît un peu plus maintenant sur la famille.
Merci beaucoup.
Merci. Demain, nous sommes, vous le savez, à Lille pour une journée exceptionnelle. Je recevrai Bruno Wouters, rédacteur en chef adjoint de La Voix du Nord, auteur du livre « Les ch'tis dans tous leurs objets ». Jean-Marie Leblanc, et oui, il est ch'ti, l'ancien directeur du Tour de France. Bruno Mazur, il est de Roubaix. Le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus passeront une petite tête par le téléphone. Demain, en direct du Furet du Nord, Julie.
Très bien, à demain Michel. Direct de Lille, avec toute l'antenne d'Europe 1 d'ailleurs. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.